à la 5e édition du congrès virtuel de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « Que faire quand l'EFT ne marche pas ?» En tant qu'utilisateur de l'EFT ou en tant que praticien débutant, vous avez sûrement déjà été confronté à des moments de doute durant lesquels vous remettez légitimement en question l'efficacité de cet outil. Notre conférencier ce soir va nous expliquer en détail quels sont les problèmes qui peuvent perturber ou empêcher une séance d'EFT de se dérouler correctement. Et nous allons apprendre à les identifier et surtout de savoir comment corriger ces saboteurs. Dans cette intervention, notre conférencier qui est psychothérapeute, formateur certifié en EFT et praticien de cette technique depuis plus de 10 ans, vous livre le fruit de son expérience et de ses apprentissages au sein de l'ACEP, l'Association américaine de psychologie énergétique. J'ai le plaisir d'accueillir le fondateur et président de l'Institut français de psychologie énergétique clinique, Jean-Michel Guéret. Bienvenue Jean-Michel.
Bonsoir Maria, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, Jean-Michel, dans cette interview, tu veux nous parler des blocages. Qu'est-ce qui peut faire que l'EFT ne fonctionne pas? Parce que lors de tes cabinets publics et des conférences, tu as été confronté à des personnes qui se plaignent qu'avec elles, l'EFT ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que tu leur réponds?
Mais en fait, je leur explique qu'il y a plusieurs raisons qui dépendent en partie du problème sur lequel elles souhaitent travailler et également de leur état à la fois psychologique et physique. Parce qu'en fait, on trouve tout un tas de problèmes et qu'on pourrait classer a priori en 7 catégories. Tout d'abord, il y a des problèmes qui sont liés au fait que la personne, elle n'arrive pas à se reconnecter à son souvenir traumatique lorsqu'elle travaille toute seule dessus. C'est trop violent et son système de protection fait qu'elle n'y va pas. Deuxièmement, on a aussi des problèmes qui sont, alors ça concerne les personnes qui consultent des praticiens, des problèmes qui sont liés à l'alliance thérapeutique avec le praticien. C'est-à-dire que le courant ne passe pas et donc du coup la personne ne peut pas se livrer. Troisièmement, ça peut également être le système énergétique de la personne qui n'est pas préparé, qui n'est pas prêt. Il y a des blocages énergétiques et donc, là encore, l'EFT ne va pas fonctionner. La quatrième catégorie c'est de problèmes, c'est que bien souvent les débutants ne savent pas correctement cibler ce sur quoi ils vont travailler. Ils font des phrases beaucoup trop générales et donc la personne, elle tourne en rond parce que il n'y a pas d'efficacité puisque c'est pas ciblé, ou alors elle est en train de travailler carrément dans la mauvaise direction, sur une mauvaise racine. On trouve également, et ça c'est les deux points que je vais vouloir développer ce soir en plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les inversions psycho-énergétiques qui bloquent tous les efforts pour solutionner le problème. C'est comme s'il y avait un programme à l'intérieur qui fait que on a pas notre cerveau, notre inconscient ne nous donne pas l'autorisation d'y aller. On peut aussi avoir une méthode de traitement inappropriée, pas stimuler les bons points. Et puis, septièmement, ce qui peut se passer, c'est que la personne arrête de travailler sur le problème. En clair, elle en a marre et elle se dit « bon, je m'en sortirai jamais », alors qu'elle a déjà commencé à bien travailler sur toutes les racines du problème qu'elle veut traiter. Mais bon, elle se lasse et en fait, ben, le traitement ne fonctionne pas.
Donc, on abandonne avant, juste avant la solution, peut-être.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Ouais. Alors, comment se fait-il, pour prendre le premier blocage, comment se fait-il que certaines personnes ne se reconnectent pas émotionnellement avec un souvenir traumatique?
Alors, il y a plusieurs explications, notamment celle d'un neurologue américain qui s'appelle Robert Skaert, qui est vraiment un grand spécialiste des traumas et du stress post-traumatique. Lui, il a posé l'hypothèse d'une capsule, il appelle ça la capsule traumatique, qui enveloppe le traumatisme afin de protéger la personne. Et en fait, donc, cette capsule, elle a pour fonction d'éviter à la personne de se confronter à nouveau avec son souvenir. Donc, pour se protéger, eh bien, la personne, elle reste le plus souvent du temps à distance de son souvenir. Et donc, elle n'éprouve pas de ressenti physique et émotionnel. Et comme tu le sais, si on n'a pas d'émotion, eh bien, les séances de EFT ne fonctionnent pas. Donc, en fait, c'est lié au refoulement du souvenir conscient de cet événement qui est carrément insupportable, et ça nous empêche de travailler sur celui-ci. Donc, on ne peut pas replacer le souvenir traumatique dans son contexte, et on ne peut pas donc le résoudre et l'intégrer. Alors, cette notion, elle a été aussi reprise par différents chercheurs qui ont démontré que dans des études cliniques, que ça bloque complètement l'intégration de ce souvenir traumatique au système de mémoire conscient de la personne. Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Le rappel conscient du souvenir étant vécu initialement comme insupportable, eh bien, par souci de protection à court terme, il est automatiquement et systématiquement évité. Et donc, toutes les réactions, tous les comportements qu'on peut dire pathologiques en lien avec ce trauma n'ont aucune chance d'être transformés. Et donc, ça, c'est un point important sur lequel j'aimerais insister tout de suite auprès des personnes qui nous écoutent, c'est que il faut bien comprendre qu'avec l'EFT, c'est pas possible de tout traiter tout seul.
Oui, si on se trouve dans ce genre de cercle vicieux, on a vraiment besoin d'un regard extérieur, quelqu'un qui nous amène là où on n'a pas envie d'aller, en fait. Enfin, inconsciemment, ouais. Hein, c'est pas une question d'envie.
J'aime bien, moi, la métaphore de l'escalade. Quand on veut commencer à s'initier à l'escalade, on se retrouve face à un mur. Au départ, on a un baudrier qui est tenu par une corde et il y a une personne qui assure, qui tient la corde. Ben, oui. Le rôle du thérapeute, c'est un peu ça. C'est vraiment de bien tenir cette corde qui va permettre au patient de pouvoir monter et progresser, quoi. Et plus la personne a des bras solides, et plus le patient va se sentir en sécurité.
C'est ça. Et puis l'avantage d'un guide de montagne expérimenté, c'est que lui, il a déjà fait le parcours plusieurs fois. Donc Absolument. Il sait où sont les pièges, tout ça. Et pour une première montée, effectivement, ça peut être bien d'être accompagné. Ok, alors, qu'entends-tu par manque d'alliance thérapeutique avec le praticien? Ça rejoint peut-être cette image du baudrier, voilà. Justement.
Exactement ça. C'est-à-dire que la personne qui va tenir la corde, eh bien, soit elle la tient pas un peu mollement, soit le patient trouve qu'il a des petits bras, et donc, en fait, il va pas se lâcher. Ouais. À ce propos, il y a environ, dans toutes les méthodes thérapeutiques, tous les outils thérapeutiques, on en dénombre plus de 400. Et il y a des chercheurs qui ont fait des études, de toutes les études sur l'efficacité. On appelle ça des méta-études, hein, des études, des analyses sur des études. Et ils ont observé que parmi toutes ces méthodes, globalement, elles sont toutes efficaces. Et ils se sont demandé pourquoi. Et notamment pourquoi, avec des modèles du patient tellement différents que d'un côté la psychanalyse, les TCC, la systémique et les courants humanistes, on arrivait à avoir des bons résultats dans toutes ces catégories. En fait, ils se sont aperçus que c'est le lien entre le patient et le praticien qui est vraiment primordial et qu'il joue, suivant les estimations, pour 30 à 50% du succès de la thérapie, ce qui est énorme, quoi. Donc en fait, si vous vous sentez pas bien avec votre thérapeute, ben vous faites comme avec votre coiffeur, vous en changez tout de suite. Et c'est aussi simple que ça, parce que la qualité de la relation est vraiment primordiale pour le succès de la thérapie.
Et effectivement, on ne parle que de la qualité de la relation. C'est pas la qualité du thérapeute ou de son travail, mais c'est vraiment la relation qui s'installe entre les deux personnes.
Oui, tout à fait. Et en fait, moi, il m'arrive de temps en temps de dire, de pas sentir ni la personne. Ça marche dans les deux sens. Hein. Oui, le thérapeute, il est pas non plus obligé d'accepter tout le monde. Et si, par exemple, il est particulièrement touché par telle ou telle catégorie de traumatisme, il peut très bien dire, moi, je suis pas compétent pour traiter ça. Je vous réfère à tel collègue qui est spécialisé là-dedans. Voilà.
Bien sûr. Donc, ne pas avoir peur de dire non aussi en tant que thérapeute.
Ouais, dans les deux sens, oui, ça marche.
On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde.
Ben non.
Alors, tu disais que ça peut être le système énergétique de la personne qui n'est pas prêt. Comment est-ce qu'on peut constater ça? Comment est-ce qu'on peut le détecter?
Alors, en fait, on le voit à plusieurs choses. Le plus courant, on va dire, c'est que la personne est déshydratée. Donc, si elle est déshydratée, eh bien, l'énergie circule pas bien, ça peut être vraiment une source de blocage. Alors, comment est-ce qu'on voit si on est déshydraté? Il y a plusieurs manières hein, d'identifier ça, mais la chose la plus simple, c'est sentir sa bouche qui est sèche. Donc, d'ailleurs, je vais boire un peu d'eau pour m'accompagner.
Oui, oui, je l'ai fait aussi, quand j'ai entendu le mot déshydraté.
Et en fait, on n'y pense pas non plus très systématiquement quand on est thérapeute, c'est bien d'avoir une bouteille d'eau pure sous la main et de passer du temps à boire. Et d'ailleurs, je veux insister sur une chose, c'est que si on constate que la personne qu'on accompagne, elle a la bouche un peu sèche ou qu'elle n'a pas bu beaucoup, il faut lui faire boire de l'eau, mais de l'eau pure. Pas oui. Du thé, surtout pas du café, vraiment de l'eau pure.
Même tisane la plus naturelle, il faut de l'eau, claire.
Tout à fait.
Oui. Et
ensuite,
sans bulle.
Ce qu'on peut observer, c'est que la personne, elle peut avoir un manque de coordination dans ses mouvements. Et ça peut indiquer différents problèmes avec des noms un peu compliqués qu'on ne prononcera pas ici. D'accord. Mais il y a un moyen simple après de corriger tout ça, qui est de faire la fameuse routine énergétique, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Et puis un autre encore moyen d'identifier qu'il y a probablement des soucis au niveau des interférences énergétiques, c'est que les résultats ne tiennent pas. La séance fonctionne plutôt bien, on a bien ciblé un événement qui a posé problème, on travaille dessus, il y a effectivement durant la séance une libération des émotions, mais si on reparle du même problème 3 ou 4 jours après, eh bien, on s'aperçoit que l'émotion est toujours là. Ça peut être aussi dû à ce genre d'interférence énergétique du système.
Mmh.
Et puis, il y a encore d'autres façons de les identifier. Ce sont des tests issus de la kinésiologie, mais ça, il faut être correctement formé pour savoir faire ces tests.
Oui, tout à fait. Donc, il existe des corrections pour ces différents problèmes.
Alors, comme
première étape, les détecter, et ensuite.
Ouais, comme je le disais, le plus simple, c'est déjà de boire un verre d'eau avant de démarrer une séance, quand on travaille de manière autonome, et puis de faire la routine énergétique de Don Hayden. Donc, cette routine, elle est simple à réaliser, et en fait, je l'ai mise dans les bonus.
Oui.
De mon intervention. Comme ça, eh bien, vous pouvez la découvrir et en suivant la vidéo, la prendre très facilement.
Oui, ou passer cette vidéo tous les jours ou avant une séance, ça ne prend que quelques minutes et c'est extrêmement efficace. Très beau cadeau pour ceux qui choisissent d'acheter le pack du congrès virtuel EFT 2015. Merci Jean-Michel.
Mais avec plaisir.
Là où moi j'ai vraiment eu la preuve de cet effet de déshydratation parce que le fait de faire des rondes et faire circuler l'énergie, ça donne soif, généralement. Ouais. Et là où j'ai vraiment constaté ça la première fois, c'était le premier séminaire avec Steve Wells et David Lake où on fait du tapping continu pendant 3 jours. Et là, je peux dire que des bouteilles d'eau, j'en ai descendu. Hein. C'était vraiment flagrant.
Absolument.
Ok, alors tu as dit que le fait de faire des phrases trop générales, sans être spécifique, ça peut être un problème. Et effectivement, c'est un problème que rencontrent pas mal de débutants. Comment peut-on être sûr d'être bien sur la cible avant de démarrer des rondes?
Alors effectivement, c'est vraiment le problème quasiment le plus courant celui-là. En fait, moi je dis souvent aux stagiaires que je forme, si vous êtes capable de dessiner ce que votre patient a dans la tête, alors vous avez bien fait votre travail et vous avez bien ciblé. Donc souvent je les interromps, par exemple dans les supervisions, en leur disant ok, j'entends une feuille de papier en disant bah, dessinez-moi ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Et en fait, à chaque fois, s'il y a un problème d'efficacité, c'est que la personne, le thérapeute n'a aucune idée de ce qu'a le patient dans sa tête. Ou alors il a bien une idée précise, mais c'est pas la bonne. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est nécessaire de cibler. Cibler, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, si je travaille sur un problème qui est de la maltraitance durant l'enfance, si je fais une phrase du genre « même si j'étais maltraité durant mon enfance, je m'accepte comme je suis », ça ne fonctionne pas. Il va y avoir certes un soulagement qui va s'opérer.
En surface.
Oui, parce que quand on stimule les points d'acupuncture, eh bien, on active le système parasympathique qui est le frein du système nerveux autonome. Mmh. Donc, en fait, on a une sensation de retour au calme, mais en fait, on ne traite rien. Pour être efficace, il faudrait identifier un moment où j'ai vécu une maltraitance. Mmh. Par exemple, à l'âge de 7 ans, le jour où telle personne de mon entourage me fait telle chose. Ça s'est passé une fois, à un moment précis. Et quand je repense à ce moment précis, je peux encore cibler un peu plus. C'est-à-dire, quand je fais défiler ce petit film dans ma tête de ce qui s'est passé, il y a un moment où je vais être sur une image qui m'active encore un peu plus émotionnellement. Mmh. C'est comme si je voyais ça sur un écran et que j'appuyais sur la touche pause. Et là, j'ai une image qui est fixe devant moi. Et cette image, eh ben, je suis capable de la décrire à l'autre. Et si je la décris avec précision, l'autre est capable de la décrire. Mmh. Et il se trouve, donc, première chose, c'est l'image. Quand je vois cette image, puisque c'est la pire de ce film qui a été douloureux pour moi, eh bien, je vais ressentir une émotion. Je vais ressentir aussi des sensations physiques, quelque part dans mon corps, une boule dans la gorge, ou une barre sur la poitrine, une oppression, ou des choses comme ça. Et je vais être capable même d'en mesurer l'intensité sur une échelle de 0 à 10. Et je vais aussi, si je me concentre sur mes pensées, je vais avoir des pensées qui vont être négatives sur moi, sur les autres, sur la situation. Et donc, je vais m'intéresser aussi à toutes ces cognitions que je vais avoir par rapport à ce que je me dis sur moi. Voilà, là, on a vraiment correctement ciblé. Et du coup, on va pouvoir faire une séance de EFT qui va être efficace.
Oui, donc bien définir la cible avant de commencer à déblayer. Parce que sinon, ça sera trop général ou on est à côté de la plaque.
Absolument.
Ok. Alors, parlons maintenant de ces fameuses inversions psycho-énergétiques. Est-ce la même chose que les inversions psychologiques dont parle Gary Craig dans ses formations DVD?
Oui, c'est le même concept. L'EFT qui a été mis au point par Gary découle en fait de la thérapie du champ mental qui a été créée par Roger Callahan. Et Roger Callahan, qui est décédé l'année dernière, dans une de ses toutes dernières vidéos, la personne qui l'interview lui dit docteur Callahan, si vous jetez un regard sur votre vie de praticien et avec toutes les découvertes que vous avez faites, quelle est celle qui pour vous a le plus d'importance? Et en fait, Callahan, dans cette vidéo, dit ben, pour moi, le plus important, c'est la mise en évidence de ce que j'ai appelé les inversions psychologiques. Et ce que j'ai observé, c'est que la prise en compte de ces inversions, alors psycho-énergétique, c'est le terme qui est donné par l'ACEP, qui est un peu plus large que ce qu'avait défini Callahan. En fait, la prise en compte de ces inversions permet d'améliorer de manière vraiment significative les chances de succès d'un traitement avec l'EFT. Moi, j'ai été confronté, comme je fais des cabinets publics relativement souvent ou des conférences, c'est que des fois, dans ces conférences, je fais des démonstrations, il y a quasiment une obligation de résultat. Parce que les gens veulent voir comment ça marche, mais aussi si ça marche. Et je me rappelle qu'au début, pour avoir sous-estimé les inversions psychologiques, j'ai eu des coups de chaud par moment. Ouais. Et que en prenant systématiquement en compte les inversions, on arrive à gagner beaucoup de temps. En fait, quand on traite ça, quand on prend en compte ces inversions, eh bien, c'est comme si on se donnait la permission de traiter un problème spécifique et donc de changer, in fine, le comportement ou les croyances et les cognitions. Ce qu'on peut se dire, c'est que, en fait, si le commun des mortels avait la possibilité d'adopter facilement le slogan de Nike « Just do it », eh bien, les gens le feraient. Et parce que si on est ne serait-ce qu'un tout petit peu motivé pour changer et qu'on ne fait rien, eh bien, c'est qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire. C'est qu'il y a un blocage quelque part dans l'inconscient, dans le cerveau, ou quelque chose qui y ressemble. Mmh. Donc, en fait, il faut que les gens se déculpabilisent, parce que souvent, on ramène ça à la volonté. La volonté, on peut dire que c'est le conscient. Comme Bruce Lipton nous l'a expliqué, le conscient, c'est 5% de nos pensées. Et l'inconscient, c'est 95% de nos pensées. Donc, si ça bug dans les 95%, ben, vous voyez bien qu'on n'a aucune chance d'y arriver avec notre seule volonté.
Oui.
Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ces inversions et ces blocages.
Est-ce que c'est l'équivalent d'une petite voix intérieure critique, d'un auto-saboteur?
Oui, en fait, c'est une bonne manière d'expliquer les choses. Cette petite voix intérieure, elle commence son travail, elle s'installe en fait, alors que nous sommes tout petits, hein, vers un an et demi, estiment certains psychologues, dès le début en fait de notre socialisation. Au départ, la première année, on est en lien étroit, on travaille notre qualité d'attachement avec la mère, et à partir d'un an, on va pouvoir commencer à socialiser dans la mesure où l'attachement était bien correctement fait. Eh bien, le rôle de cette petite voix, c'est d'abord de nous protéger. Elle est définitive en fait, hein, elle s'installe définitivement vers l'âge de 4 ans. Et c'est comme si c'était un système de pensée à part entière à partir de 4 ans. Et en fait, si on l'analyse, si on l'observe, cette petite voix, eh bien, on s'aperçoit qu'elle possède les caractéristiques développementales d'un enfant de 4 ans. C'est-à-dire que cette petite voix, elle est incapable d'avoir une logique adulte et que la plupart des raisonnements sont totalement irrationnels. Elle a une pensée dichotomique, c'est-à-dire c'est ou tout noir ou tout blanc. Le gris n'existe pas. Et que cette petite voix, eh bien, elle use et elle abuse de la pensée magique. Hein, c'est « j'imagine que si je pense ça, ça va se réaliser hein, ». C'est quelque chose qui est assez cher aux enfants. Et c'est une petite voix également qui est très égocentrique, tournée sur elle-même. En plus, ce qu'on peut dire, c'est que cette voix, elle est orientée sur la punition et qu'elle crée et qu'elle renforce des règles de vie hyper rigides. Il faut, c'est tous les « il faut que je dois », etc. En plus, on pourrait dire également qu'elle a une perception du temps qui est non linéaire et qu'elle n'est même pas dérangée par ses propres contradictions. Et en plus, elle déteste tout ce qui est de l'ordre de l'espérance, de l'espoir. Hein. Donc, c'est une petite voix aussi qui catastrophise en permanence toutes les choses et qui préfère se sentir pleinement en contrôle et responsable plutôt que de lâcher prise. Donc on voit, hein, c'est un peu long l'énumération que j'ai faite là, mais on voit et on reconnaît pas mal de travers qu'on a tous. Hein. Et donc, cette petite voix intérieure, c'est la source de toutes les résistances, aussi bien en thérapie que dans la vie courante, hein, mais aussi dans les pensées et dans les sentiments négatifs. Et comme le dit Lynn-Marie Carjola, qui est la directrice pédagogique de l'ACEP, qui a présenté une conférence sur ce thème l'année dernière au congrès de Phoenix, et dont je me suis inspiré pour préparer mon intervention, elle appelle ça, elle, le container psychologique des inversions psycho-énergétiques.
Donc, en fait, dans pas mal de situations, on est en train de nous laisser gouverner par un enfant de 4 ans.
Bah oui, c'est ça. Ouais. Et ce qu'on dit long sur nos comportements, et ce qui explique aussi nos erreurs récurrentes. Hein.
Oui.
On a plein de gens qui disent des fois dans les séances, je comprends pas. Par exemple, ça fait 5 fois que je me marie, à chaque fois je tombe sur les mêmes. Bah oui. Tant qu'on n'a pas viré la petite voix intérieure, tant qu'on n'a pas changé nos cognitions et nos croyances, eh bien, on répète en boucle les mêmes erreurs, sans s'en apercevoir, bien sûr.
C'est ça. Et est-ce que l'autoflagellation, c'est une solution efficace à ça dans ton expérience, Jean-Michel?
Pas vraiment.
Il vaut mieux faire de l'EFT et négocier en fait avec cet enfant de 4 ans et lui expliquer que maintenant, ça se passe différemment.
Voilà, il faut lui parler gentiment. En
oui.
Fait,
oui, il ne s'agit pas de le virer. Hein.
Ouais. Il faut la rassurer, cette petite voix intérieure. Et puis, effectivement, là, l'EFT va nous aider à changer, justement, et le contenu des propos de la petite voix, et voire même la tonalité de la petite voix, voire même la faire évoluer, disparaître, la réintégrer. Mmh. Et donc, se libérer de tous les comportements et les cognitions négatives que nous avons.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'inversion psycho-énergétique?
Oui. En fait, à la CEP, ils ont fait un gros travail là-dessus. Ils les ont classés en 3 catégories ou 3 niveaux. En fait, on a les inversions de type global ou massive. Alors, ces inversions, elles sont à l'origine de multiples problèmes et elles bloquent quasiment toutes les tentatives d'amélioration. C'est un peu comme si la voix intérieure, elle disait, on peut dire la voix intérieure ou le programme, moi j'utilise aussi souvent cette métaphore, c'est un peu comme si, la métaphore de l'ordinateur, c'est un peu comme si le système d'exploitation de l'ordinateur était déjà buggé. Donc tous les logiciels, tous les apprentissages qu'on va rajouter, eh bien, ils vont pas forcément bien fonctionner à cause de ce bug dans le système d'exploitation. Donc, le premier, ça serait un vraiment très gros bug où la petite voix intérieure dirait « je veux mourir » ou « c'est impossible pour moi de guérir ». Donc, s'il y a des programmations qui sont extrêmement négatives comme celle-là, où je veux pas être heureux, eh bien, c'est évident qu'on va retrouver des problématiques dans l'ensemble de l'histoire de vie de la personne. Ensuite, le deuxième groupe, c'est le plus fréquent, ça concerne des inversions spécifiques qui sont centrées sur un seul et unique problème. Donc, par exemple, ça peut être une croyance consciente ou quasi-consciente au sujet de pourquoi une personne ne peut pas ou ne devrait pas se débarrasser d'un problème particulier ou entrer en totale résonance avec un état, une croyance ou un comportement désiré. Juste un exemple pour éclairer ça. J'ai eu l'occasion de faire une séance en public au cours d'une formation avec un praticien EFT qui nous explique qu'il y a une... qui a passé les 50 ans depuis quelque temps et qui nous explique que dans sa première vie, il travaillait dans le bâtiment et qu'il était confronté à la hauteur. Et en fait, il a toujours été phobique des hauteurs. Il a identifié un grand nombre de cas qui peuvent être en lien avec ça et il a eu l'occasion, durant toute sa formation de praticien, de travailler des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'heures, sur tous ces problèmes. Or, eh bien, il se trouve toujours à supporter ce vertige. Et là, il me dit, eh bien, écoutez, je suis dans un hôtel, au quatrième étage, eh bien, quand je m'approche de la fenêtre, à 3 mètres de la fenêtre, hop, je m'arrête parce que je sens une espèce de peur qui monte en moi, c'est incontrôlable. Pourtant, j'ai déjà travaillé énormément sur tout ce qui pouvait être à l'origine de ça. Et comme on était en train d'apprendre justement le traitement des inversions psychologiques, je lui ai demandé de venir et j'ai identifié d'abord le nombre de ces inversions. Il y en avait 2. Et on a identifié la sécurité pour moi, la sécurité pour les autres. Et on a fait le traitement spécifique de ces 2 inversions psychologiques. Et rien d'autre. On n'a même pas été chercher un souvenir qu'il avait déjà travaillé. Et bien le lendemain, quand il est arrivé, il a dit « j'ai pu me mettre à la fenêtre, ouvrir la fenêtre ». Simplement en ayant traité ça. Donc, ça, c'était pour illustrer ce que c'est qu'une inversion spécifique. Et puis, la troisième catégorie, eh bien, ça va concerner les inversions partielles. On appelle ça aussi les inversions mini, c'est-à-dire des croyances qui permettent de faire un pas vers le traitement du problème, mais qui sont là, qui sont pas complètement d'accord pour s'en débarrasser totalement.
D'accord. Alors, dans cet exemple que tu donnais, tu disais que tu en avais identifié 2 inversions. Quelles sont les inversions qu'on retrouve le plus fréquemment?
Alors, il y a des croyances, des inversions qui sont en lien avec la possibilité. Par exemple, si on reprend l'image de la petite voix, c'est la petite voix qui dit « c'est impossible pour moi de me libérer de ce problème ». Mmh. Ensuite, on a la sécurité, celle dont je vous parlais. « Je ne suis pas en sécurité si je me libère de ce problème ». Là, c'était flagrant. La sécurité pour les autres ne seront pas en sécurité si je me libère de ce problème. Et alors, c'est marrant parce que quand on a mis le doigt là-dessus, sur cette croyance-là, tout de suite, il a connecté, il a dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai sauvé la vie de 5 personnes.
Ah oui.
Et ça a commencé quand il était tout petit, parce que comme c'était quelqu'un de très anxieux, le bénéfice secondaire, on pourrait dire, de cette anxiété, c'est qu'il est attentif à tout ce qui se passe. Et un jour à la plage, il a vu sa cousine qui était en difficulté dans l'eau, qui disparaissait sous l'eau, qui remontait. Il a vu que c'était pas normal. Tout petit, il a été prévenir le maître nageur qui a sorti sa cousine qui était en difficulté et qui aurait probablement pu se noyer s'il n'y avait pas eu une intervention. Mmh. Et ça s'est reproduit. Donc c'est autant de renforcements dans son esprit qui maintiennent en place cette notion de garder le vertige, puisque quelque part il y a une fonction positive dans tout ça.
Si oui, je vais lâcher la vigilance et les gens pourraient tomber par la fenêtre et
c'est ça. Et ouais. Donc voilà, ça c'est la troisième catégorie, la sécurité pour les autres. On a également le mérite, les personnes, comme si la voix disait je ne mérite pas de me libérer de ce problème. On a également l'identité. Je ne saurais plus qui je suis si je me libère de ce problème. Ça, on le trouve fréquemment chez des personnes qui ont un problème depuis l'enfance. C'est-à-dire que la personne s'est construite. Ça peut être un problème de timidité, par exemple. La personne s'est construite avec son problème de timidité. Elle se dit, mais quelque part dans son esprit, la petite voix, elle dit, oui, mais alors, si demain t'es plus timide, tu vas être qui, quoi? Et donc, il y a une réticence à ce niveau-là. Ensuite, une autre catégorie, c'est le ressentiment. Celle-là, elle est très intéressante parce qu'elle est un peu complexe à, pour les gens. On a du mal à s'en rendre compte. C'est si je me libère de ce problème, la personne qui m'a fait du mal ne souffrira plus de ce qu'elle m'a fait.
Oui.
Ça, c'est très...
Si j'accepte ce qui s'est passé, ça voudrait dire que c'est OK.
Ça voudrait dire que quelque part, je pardonne la personne. C'est, en fait, tout à l'heure, on disait que la petite voix, elle n'était pas une contradiction prête. L'idée, c'est de se dire... Quelqu'un m'a fait du mal, si je continue à souffrir, je le punis. Alors que pas du tout. Il y a juste à penser à ce que disait Nelson Mandela quand il était élu président et qu'il a invité autour de la table ses anciens geôliers. Un journaliste lui disait, mais comment vous faites pour pouvoir discuter avec ces gens-là alors que vous devriez à votre tour les mettre en prison? Et il y a eu cette phrase... qui était, mais il faudrait être fou pour croire qu'en buvant le poison de la colère et du ressentiment, je vais tuer mes adversaires.
Oui.
Eh bien, c'est ce que, moi je l'utilise en séance souvent cette phrase pour faire prendre conscience aux personnes que justement, c'est pas parce qu'elles vont continuer à entretenir une souffrance, une douleur ou de la colère à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles vont punir la personne qui leur a fait du mal.
Parce que si ça se trouve, la personne qui leur a fait du mal n'est même pas au courant, voire est déjà décédée. Pourtant, on continue à s'accrocher à ce problème parce que...
Ou alors, elle serait même très contente de savoir que la personne, elle continue à souffrir. Donc,
oui,
ce sera le pire.
Oui, aussi, ouais. Ça peut être bien à mettre en évidence. Alors, comment faire pour identifier ces différentes inversions, Jean-Michel?
Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Il y en a une que j'aime beaucoup et que j'utilise et que j'enseigne à l'ISPEC, qui est le test musculaire, donc c'est une sorte de réflexe idéomoteur du deltoïde. On fait un test avec le bras et ça permet, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça serait long, mais ça permet d'aller très vite pour identifier à la fois le nombre d'inversions psychologiques qui sont présentes et puis laquelle, dans toutes celles que j'ai citées, si c'est de la sécurité ou l'identité qui pose problème. Et donc, ça permet d'être pertinent, efficace et rapide. Le problème, c'est que c'est un test qui a l'air d'être super simple. Hein. Quand on voit ça sur Internet, on se dit « Oh ouais, mais c'est facile ». En fait, c'est loin d'être aussi simple que ça. Et avant de le maîtriser, il faut vraiment des heures et des heures de pratique. Et le problème, c'est que si... la condition sine qua non, on pourrait dire, pour l'utiliser, c'est vraiment de bien le maîtriser. Parce que sinon, on risque carrément de faire fausse route et là, de rater complètement sa séance.
Oui, on va induire des fausses réponses, en fait.
On part sur la mauvaise piste et on tourne en rond, on va s'en apercevoir assez rapidement, d'ailleurs.
Oui.
Alors, il y a une autre façon de faire, qui est de poser des questions à la personne en utilisant le questionnement de la maïeutique. Gary Craig privilégie dans l'évolution de l'EFT, de son EFT, cette piste. Il appelle ça le travail de détective. En fait, le questionnement de la maïeutique, c'était fondé par Socrate au IVe siècle avant Jésus-Christ, et c'est une technique qui consiste à faire accoucher les esprits de leur connaissance. Donc en fait, c'est un questionnement élaboré qui est destiné à faire exprimer la personne de ce qui se cache au fond d'elle-même. Donc, pour dire ça simplement, c'est aider la personne à découvrir de ce qui l'empêche d'avoir cette permission de se libérer à 100% de son problème. Et puis, il y a encore une troisième approche qui est plus inspirée des thérapies cognitivo-comportementales, qui consiste à faire une analyse des avantages et des désavantages à changer. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les risques et les bénéfices à réussir à changer. Et à l'inverse, quels sont les risques et les bénéfices à maintenir le problème? On peut faire ce travail de réflexion. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui sont dans cette problématique-là à le faire, parce qu'il y a vraiment des pistes qui vont émerger et qui seront des très bonnes cibles à travailler. Et puis, on peut se poser aussi la question de savoir quelle est la face cachée du fait de se libérer de ce problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si on se libère de ce problème? Là, on va, c'est intéressant sur des problématiques comme des douleurs, par exemple, qui sont des douleurs invalidantes. On va avoir des personnes qui sont dans une grande souffrance, mais qui, si elles se libéraient de cette souffrance, eh bien, n'auraient peut-être pas autant d'attention ou d'amour qu'elles ont à l'heure actuelle. On peut voir sur des problématiques de douleurs chroniques, si je lâche et que j'ai plus cette algodystrophie ou tel et tel problème, bah, il faudrait que je retourne travailler ou que je me réinsère dans une situation qui est vraiment très difficile pour moi. Donc voilà, ça c'est des questions qui sont pas facile à aborder de prime abord, on va dire. Mais néanmoins, c'est vraiment aussi des sources de blocage très très fortes.
Et effectivement, ça peut être des questions délicates à poser, et d'où l'importance d'un des premiers blocages que tu as mentionné tout à l'heure, l'alliance thérapeutique, d'être vraiment en confiance avec son thérapeute pour que ce genre de questions qui sortiraient un peu de nulle part ne casse pas l'ambiance.
Ah bah c'est sûr que si on attaque de but en blanc en disant mais vous savez que vous avez une bonne raison de garder votre douleur.
Oui, quel est le bénéfice de garder votre problème?
Voilà.
Ils vont peut-être nous regarder bizarrement.
Oui, peut-être claquer la porte aussi et ça sera assez légitime.
Donc il faut l'amener cette question. On peut pas la poser de but en blanc effectivement.
Tout à fait.
Alors est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble quelque chose pour traiter les inversions au cas où?
Alors. Donc, il y a plusieurs manières de traiter ces inversions, parce que finalement, c'est ça le principal dans mon intervention, parce que les gens doivent se dire, oui, c'est bien beau, maintenant on sait ce que c'est, on sait comment les identifier. D'ailleurs, au passage, c'est longtemps qu'on savait qu'on en avait. Donc, comment est-ce qu'on traite ça? Alors, ce que je propose de faire ici et maintenant, c'est une des méthodes qui a le mérite d'être applicable à tout le monde, qui est relativement simple, c'est pas forcément la plus pointue, on va dire, mais déjà je pense que si on fait tout ça, ça peut contribuer à lever un certain nombre de problèmes. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, c'est identifier le point sensible. Alors, est-ce que le point sensible, dans les documents ou dans le kit de démarrage, vous l'identifiez bien?
Je ne sais pas, j'ai pas le kit de démarrage sous les yeux, je crois qu'il est sur les schémas, oui.
Alors, bon, donc les personnes pourront toujours le retrouver. Dans les bonus, également, j'ai une vidéo qui montre comment trouver ce point sensible, pour qu'on puisse le faire tous ensemble maintenant. En fait, si vous mesurez entre plus d'un mètre 70, vous allez identifier le creux sternal, c'est-à-dire pour les hommes c'est l'endroit où il y a le nœud de la cravate, ça fait une sorte de petit U en dessous de la pomme d'Adam.
Oui, d'accord, c'est le U dans l'ossature entre les clavicules.
Voilà, c'est ça. Donc si on met le doigt là, pour les personnes qui font plus d'un mètre soixante, enfin environ 1,70 m et plus, vous allez descendre de 7 cm à la verticale. Et si vous faites moins d'un mètre 70, vous allez descendre de 6 cm. C'est approximatif.
D'accord.
Donc, vous descendez et ensuite, vous vous dirigez côté gauche vers le cœur, soit de 7 cm, soit de 6 cm, en fonction de ce que vous avez fait initialement. Et là, vous commencez à chercher un point qui doit être un point sensible.
Oui, personne
trouve que ça fait mal, voilà. Donc, on le sent assez bien. Et une autre façon de faire, alors, qui est un peu plus technique, c'est celle que je montre dans la vidéo. Vous mesurez avec votre main gauche, avec le pouce et l'index de la main gauche, vous mesurez la largeur de la paume de la main droite. Et vous reportez cette largeur vous mettez le pouce dans le creux sternal, l'index donc descend à la verticale et vous allez l'utiliser comme la pointe d'un compas, vous plantez la pointe et vous pivotez le pouce côté cœur. Et donc là on retombe sur le même point. Je ne sais pas si tu as essayé de le faire en même temps que je disais Maria, mais on retombe au même endroit. Voilà. Ensuite, on repère ce point qui est sensible. Et avec la main droite, on va poser trois doigts, donc le majeur pile sur le poing, vous posez l'annulaire d'un côté, l'index de l'autre, et là on va commencer à masser. Alors,
si oui, là avez... on tapote pas, hein. C'est non, une stimulation plutôt massage circulaire.
Voilà. Alors, on masse ce poing dans le sens des aiguilles d'une montre, si la montre était posée sur notre cœur, sur notre poitrine.
D'accord. Vous imaginez installer une petite horloge sur le cœur, là, et vous suivez les aiguilles.
On descend à l'extérieur et on monte à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire et on va répéter une phrase un peu à rallonge, il est vrai, mais l'objectif de cette phrase, ça sera de lever l'inversion psychologique.
Mmh.
On peut mettre un bémol pour les personnes qui ont des cancers parce que certains enseignants disent que il vaut mieux éviter de masser ce point sensible, qui est en fait un point neurolymphatique et qui remet la lymphe en mouvement par mesure de précaution. Donc, les personnes qui ont cancer, il vaut mieux...
Voilà, pour différentes raisons, ne doivent pas faire circuler, stimuler la circulation lymphatique.
Voilà, et bien il vaut mieux qu'elles stimulent le point karaté, qui est en fait le point sur le tranchant de la main et qu'on connaît bien quand on fait l'EFT.
D'accord, et là, il y a aussi un risque.
Voilà, soit l'un, soit l'autre.
Et sinon, gauche, droite, ça a une importance?
Alors, c'est mieux côté cœur. C'est plus efficace côté cœur.
D'accord.
Alors, ensuite, vous allez répéter cette phrase. Donc, si tout le monde est maintenant sur ce point, en train de masser, eh bien, on va répéter une phrase un peu à rallonge. Alors, voilà la phrase. Même si j'ai ce problème.
Même si j'ai ce problème.
Alors évidemment, si vous pensez à un problème spécifique, hein, vous n'allez pas dire même si j'ai ce problème. Vous, par exemple, on va faire un exemple avec toi, Maria. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu...
Je peux penser à un stress.
Oui.
Un stress
récurrent, permanent, qui se manifeste souvent.
Oui.
D'accord. Alors. On va dire, dans ce cas-là, on remplace ce problème par ce stress. Là, ce qu'on voit, c'est que quand on traite l'inversion psycho-énergétique, on est général, plus que lorsqu'on cible.
D'accord. Hein,
parce qu'en fait, on s'adresse au programme ou à la petite voix, ou aux injonctions de la petite voix de l'enfant de 4 ans.
Mm-hmm.
Donc, c'est la petite voix qui dit j'ai besoin de ce stress. Donc là, on n'est pas spécifique. Hein. Et souvent, les gens font la confusion entre les deux. Donc, quand on traite l'inversion psycho-énergétique, les phrases, elles sont générales.
D'accord.
Donc, même si j'ai ce stress, c'est que j'ai peut-être une bonne raison d'avoir ce stress.
Même si j'ai ce stress, et j'ai peut-être des bonnes raisons de l'avoir.
Et même s'il est impossible pour moi de m'en débarrasser.
Même s'il est impossible pour moi de m'en débarrasser.
Toujours tu masses le poing en disant tout ça.
Mmh.
Et même si je ne suis pas en sécurité si je m'en débarrasse.
Même si je ne suis pas en sécurité si je m'en débarrasse.
Et même si peut-être les autres ne sont pas en sécurité si je m'en débarrasse.
Et peut-être que les autres ne seraient pas en sécurité si je m'en débarrassais.
Et même si je ne mérite pas de m'en débarrasser.
Même si je ne mérite pas de m'en débarrasser.
Et même s'il y a d'autres raisons et d'autres blocages pour lesquels je ne peux pas me débarrasser de ce stress.
Même s'il y a d'autres raisons, d'autres blocages qui font que je ne peux pas me débarrasser de ce stress.
Je m'accepte totalement et complètement.
Je m'accepte totalement et complètement.
Je me respecte.
Et je me respecte.
Et je me pardonne d'avoir toutes ces pensées et ces ressentis.
Et je me pardonne d'avoir toutes ces pensées et ces ressentis.
Et de les porter en moi depuis si longtemps.
Et de les porter en moi depuis si longtemps.
Et je me détache maintenant de tous ceux qui y contribuent.
Et je me détache maintenant de tout ce qui y contribue.
Donc, voilà. Donc, en fait, là, en faisant ça, on donne la permission à son esprit inconscient, après on appelle ça un peu comme on veut, de faire le travail. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer la séance de EFT en ciblant vraiment précisément un événement.
Mmh.
Je vous donne un exemple pour conclure parce que je vois que le temps passe et qu'on arrive bientôt au terme de notre entretien. Je travaillais avec une personne sur un accident qui s'est passé quand elle était toute petite. un accident avec une voiture. L'accident a été très grave et arrivée à l'âge adulte, cette personne, elle n'arrive pas à retraiter ce souvenir. Chaque fois qu'on cible bien, il y a énormément d'émotions et ça part, même si on utilise toutes les techniques douces, etc., il y a une réaction qui est vraiment pas normale par rapport à ce qu'on peut constater d'habitude. Eh bien, on a arrêté de travailler là-dessus, j'ai stabilisé la personne, elle est revenue dans un état émotionnel au calme, et là on a commencé à faire le travail en utilisant le test musculaire sur les inversions psychologiques. Et on a mis en évidence trois inversions psycho-énergétiques. La première inversion concernait évidemment la sécurité, il y avait la sécurité pour les autres et l'identité. Ce que j'ai trouvé remarquable dans le témoignage de la personne après avoir fini la séance, elle a dit, quand on a commencé à travailler sur la première inversion psychologique, eh bien j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se recalait à l'intérieur de moi. Au moment où on a travaillé la deuxième inversion, j'étais un peu encore plus aligné, et à la troisième, eh bien je me suis senti complètement dans mon axe. Parce que là, ce qu'on vient de faire tous ensemble, c'est, comme on n'a pas identifié les inversions, ben on part du principe que qui peut le plus peut le moins, en fait. Et donc, on les traite tous en bloc, même si il y en a qui ne nous concernent pas. Mais quand on est en séance, on identifie avec précision ces inversions, et voilà, son retour à elle, c'est que effectivement, elle se recale. Et alors qu'avant, elle voyait l'image, et que quand elle avait cette image, ça déclenchait énormément d'émotions, après avoir fait le traitement des inversions, elle reprend la même image et l'intensité émotionnelle était vraiment redescendue à un niveau très très bas. Et on a pu lever ça très facilement juste avec une ronde derrière. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ça et de l'intégrer. Et je pense que, en tout cas, les personnes qui sont formées à l'IFPEC et qui apprennent ça, toutes me font des retours en me disant mais ma pratique a vraiment évolué, là où je coinçais, ben je coince plus, je prends plus de plaisir à travailler et mes patients également.
Donc on peut ouvrir chaque séance en fait par la petite ronde, en fait c'était même pas une ronde, mais sur cette stimulation du point sensible qu'on vient de faire.
Oui, pour les personnes qui travaillent chez elles de manière autonome, eh bien, elles peuvent faire ça systématiquement, parce que, bon, si vous connaissez pas tous les tests, etc., partez du principe que si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il y a un blocage inconscient. Donc, ce blocage, c'est une inversion psycho-énergétique ou une inversion psychologique, eh bien, vous la traitez avec la phrase qui reprend tout ce qu'on a évoqué au niveau de la possibilité de la sécurité pour soi, la sécurité pour les autres, le mérite, etc., etc.
Oui, on les passe toutes en revue au cas où, même si on se sent pas concerné, même si on se dit oh, ça doit pas être ça, ça nous coûte pas plus cher de les dire toutes en fait.
Voilà, bon ça prend un peu de temps, mais finalement pas tant que ça quand même. Hein.
Mais oui, effectivement. Eh ben merci beaucoup Jean-Michel pour toutes ces pistes pour faire que l'EFT fonctionne encore mieux pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit en autotraitement ou en séance avec un thérapeute. On va aller répondre aux questions. Le chat
oui.
Est ouvert.
Avec
allez-y. On se retrouve tout de suite. Merci Jean-Michel.
À tout de suite.
Voilà. Le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions pour Jean-Michel. Et pendant qu'il en prend connaissance, on va pas faire le tirage au sort ce soir. Il y a une inversion psychologique qui nous empêche.
Tu m'as fait peur.
Tu fais une correction après, ouais, et on le fait quand même.
Oui.
Ou on saute.
Moi, j'ai pas d'inversion là.
Alors, j'ai un petit souci avec mon navigateur qui lui est un peu inversé. Donc, si tu peux peut-être parler de.
C'est pas que.
Ouais, des packs par exemple.
Des packs
Jean-Michel
thérapeutique.
Vient de parler de son bonus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces packs, Noël ?
Alors,
j'ai du mal à... je cherche ma page pendant ce temps-là.
Vas-y, cherche la page. Vous pouvez acquérir le pack, les packs. Dans ces packs, il se trouve le coffre au trésor, c'est-à-dire tous les bonus que nous offrent les experts à chaque fois qu'ils font une conférence. Et il y a d'ailleurs plusieurs bonus offerts par certains experts qui en ont mis 2 ou 3. C'est des fichiers audio, vidéo, des e-books. Ensuite, vous aurez les 14 conférences, plus l'enregistrement des questions-réponses suite à ces conférences. Pour ceux d'entre vous qui achètent les PDF, vous aurez des retranscriptions des 14 conférences.
Un peu plus tard.
Transcriptions qui sont livrées fin juin, le temps que notre équipe les tape, les corrige, les mette en forme. Et vous avez également des bons de réduction sur des prestations, des services qu'offrent nos conférenciers, que ce soit des stages, des réductions sur leurs séances individuelles, sur des programmes. Voilà, ils vous offrent des bons de réduction. Et la nouveauté de cette année, c'est que les conférences sont mises en vente à l'unité et on a choisi de faire ce qu'on appelle le kit de conférences dans lequel vous avez une conférence que vous choisissez, le bonus du conférencier plus la transcription du PDF. Nous avons quelques mails qui nous demandent s'il est possible d'acquérir les PDF seuls. La réponse est non, il n'est pas possible d'acquérir les PDF tout seul. Ils sont soit dans les packs, soit dans les kits de conférences.
Très bien, Noël, bravo.
Il existe aussi une boutique, c'est l'onglet boutique, où en bas de page, vous verrez d'autres produits mis à disposition par des experts, des livres, des...
Comme les excellents cabinets publics avec Jean-Michel Duret en vidéo.
Voilà, mais Jean-Michel Duret a donné une... met à la vente une vidéo des cabinets publics.
Je crois même qu'il y a 2 vidéos dedans.
Il y a 2 vidéos.
Oui. Enfin, vous irez voilà. Voir tout ça.
Allez voir la boutique, il y a de merveilleux produits à l'intérieur.
Et nous allons faire gagner donc un pack privilège PDF. Je veux un cadeau bonus. Je vois Thierry, il est prêt.
Allez Thierry, prêt? On croise les doigts.
Allez, c'est parti.
On est avec Thierry et tous les autres. Donc, dans la base de données... Toute la base de données, tous
toute
les
la
gens.
Base de données de toutes les personnes inscrites depuis l'ouverture du site le 25 avril. Je demande
ou pas.
Jean-Marc. Jean-Marc H. Dont l'adresse commence par JMH. Et plus loin, in@wanadoo.fr. Bravo Jean-Marc.
Bravo, bravo.
Et Jean-Marc va être rejoint par Monique. Monique P, qui apparemment vient du Québec, enfin du Canada. L'adresse mail de Monique commence par MPA, plus loin cp@videotron.ca, qui normalement signifie Canada. C'est pour ça que je vois
super
qu'elle vient de loin.
Donc ces gens seront contactés par mail. On leur enverra un mail avec un bon de réduction, un code à rentrer quand ils iront sur la boutique.
Pour acheter un pack privilège PDF gratuit.
Voilà. Et puis dans le chat, il y a quelqu'un qui demande le livre de 200 pages est composé de quoi ? Le livre de 200 pages, c'est les 14 conférences retranscrites.
Voilà. Voilà.
Il peut être intéressant de revenir, on se rappelle qu'un conférencier a parlé de quelque chose qui nous intéresse et plutôt que d'avoir à faire dérouler l'audio où on ne sait plus trop à quelle minute il en a parlé, d'avoir un livre de ses conférences, ça peut vraiment faciliter le travail. Donc c'est 14 conférences fois une quinzaine de pages par conférence.
Très bien. Alors, Jean-Michel, je vais rouvrir ta ligne pour que tu puisses commencer à répondre aux questions. Un instant, je trouve le bon panneau. À toi, Jean-Michel.
Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions super intéressantes et hyper motivées. Avant de commencer à répondre, je voudrais juste faire passer une petite annonce, puisque vous avez fait de la pub. L'idée, c'est on a créé des séminaires qui sont spécialement créés pour les auditeurs qui participent au congrès et qui le supportent en participant à l'achat d'un pack. La première chose qu'on a faite, c'est de mettre une formation EFT grand public certifiante de niveau 1 les 18 et 19 juillet à Paris. Dans le 13e arrondissement. généralement à l'IFPEC, on forme principalement des gens qui sont du domaine du soin et de la prise en charge mentale. Là, vraiment, c'est orienté sur le grand public et en lien avec ce qu'on vient de traiter, c'est-à-dire les inversions psychologiques. La deuxième chose, c'est la mise en place d'un atelier EFT cancer avec le docteur Julien Droin le mardi 9 septembre à Marseille. Et au passage, j'en profite pour vous dire que rester sur le site et d'écouter sa conférence qui suit, parce qu'elle est vraiment passionnante.
À 21h, oui.
Voilà, donc dès 21h, vous verrez, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai appris plein de choses. Et puis, voilà, pour les annonces. Donc maintenant, en ce qui concerne les questions, j'en ai beaucoup. J'ai des questions qui se regroupent, par exemple.
Vas-y.
Sur certains sujets chauds pour moi, la pratique EFT induit chez moi de très grosses nausées violentes, qu'en pensez-vous ? Il y a une deuxième question qui va dans le sens que j'ai un syndrome de bouche brûlante, je travaille dessus, mais rien ne se passe. En fait, quand le symptôme augmente d'intensité, c'est souvent qu'on est en train de s'approcher du problème et que ce qui se manifeste, c'est effectivement l'inversion psychologique. Si on se réfère à d'autres modèles, par exemple aux thérapies cognitivo-comportementales, il y a une technique qui s'appelle la thérapie des schémas, qui est très intéressante. Et ça me fait vraiment penser aux inversions psychologiques. Le problème dans la psychothérapie, si vous voulez, c'est qu'il y a tellement de modèles du patient, c'est-à-dire de manières différentes de concevoir l'être humain et son fonctionnement psychologique, que ça crée des tensions entre toutes les écoles, entre toutes les chapelles, et qu'à chaque fois, il y a des noms particuliers, des étiquettes qui sont mises sur des choses. Donc ça complique les choses, il faut sans arrêt traduire d'un domaine à un autre domaine. Donc les inversions psychologiques, moi je les rapproche au schéma de Jung, de Jeffrey Jung, hein, pas l'autre. Et lui dit les schémas se battent pour survivre. C'est-à-dire que ce qu'on a engrammé depuis la petite enfance, eh bien c'est un peu comme si c'était chez nous. Et pouvoir arriver à changer ça, eh bien c'est hyper difficile. Donc c'est ce qui se passe généralement quand on commence à s'approcher de la problématique, c'est que le symptôme, il augmente en intensité. Donc c'est pas étonnant, ça veut dire que là c'est exactement la manifestation d'une inversion psychologique qu'on peut traiter comme on vient de le voir dans l'interview précédente.
Et ces schémas, Jean-Michel, c'est vraiment des schémas qui sont mis en place tout petit, hein.
En fait, Jeffrey Jung, il explique la chose suivante. Quand on vient au monde, on a une personnalité émotionnelle. C'est-à-dire que on peut être timide ou extraverti, et on peut être agressif ou bien super calme, etc., etc. Il a défini différents critères. C'est un peu comme si on vient au monde avec les yeux bleus ou les yeux verts. On n'y peut rien, c'est comme ça et ça ne changera pas. Ensuite, on a des besoins fondamentaux. Ces besoins fondamentaux, ils sont universels. Ils sont communs à tous les enfants, quelles que soient les cultures, les religions, etc. On a besoin, par exemple, d'attachement. Et en fonction de est-ce que nos parents, notre environnement répond à nos besoins ou pas, eh bien, on a une couleur, on va dire, émotionnelle. Et puis ensuite, on a des besoins fondamentaux auxquels notre environnement, nos parents ont répondu ou pas répondu. En fonction de ça, donc ça se crée vraiment tout petit, hein, dès le début, mettent en place des schémas. Et des schémas, eh bien, ça va être différentes manières de voir le monde. C'est comme si on avait des lunettes bleues, roses, vertes, polarisantes ou autres. On voit le monde d'une certaine manière et pas de la même manière que son voisin. Mmh. Et en fonction de notre perception du monde, eh bien, on va avoir différents types de comportements. Les comportements qu'on peut avoir, ils peuvent être dans le genre soumission, c'est-à-dire ce schéma qu'on m'a inculqué, ben finalement, je l'accepte et je me conforme à ce schéma-là. Au contraire, on peut être en rébellion totale, on peut combattre le schéma. Ou troisième alternative, on peut éviter le schéma. Donc ça fait trois types de comportements différents qui peuvent coexister en fonction des sphères dans lesquelles on évolue, qu'elles soient sociales, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc si on revient sur les inversions psychologiques, on est en train de mettre le doigt sur un schéma, on active un schéma qui dit non, mais moi je veux pas changer quoi. Et pourquoi est-ce qu'il veut pas changer? Bah parce que finalement on a été programmé comme ça depuis notre enfance.
Ouais. Très bien, super. Merci.
J'ai une tendinite au pouce que je n'arrive pas à lever. Alors ça me fait penser à un rugbyman avec lequel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Et en fait son problème, il m'était envoyé par son médecin parce que le médecin de l'équipe de rugby trouvait anormal qu'il y ait une tendinite récidivante. Et en fait, en clair, chaque fois que ce jeune joueur de 19 ans, très prometteur, s'approchait d'une échéance importante, eh bien, il y avait une tendinite dont le bénéfice secondaire, c'était de le faire rester sur le banc de touche et pas de s'exposer dans le match. Mmh. Et quand on a commencé à travailler justement sur les inversions psychologiques, que j'ai fait le test musculaire, on s'est aperçu que c'était en lien avec un trauma qui s'était passé il n'y a pas très longtemps et que grosso modo, ça le protégeait. Et quand on est rentré dans le détail, on s'est aperçu qu'au cours d'un match il y a quelques mois auparavant, il s'était bagarré avec un autre, en se bagarrant il s'était cassé la main, qu'il s'en voulait, que ça le reconnectait avec des souvenirs d'enfance, etc. Et donc le bénéfice secondaire de la tendinite, c'était de lui éviter de se retrouver dans le même genre de situation. Parce que dans le même genre de situation, ça activait à nouveau des schémas dont il était quelque part victime depuis sa plus tendre enfance. Donc, c'était très intéressant parce que là, on a commencé à masser le point sensible en disant, même s'il y a une part de moi qui veut pas que je me libère de cette tendinite parce que je serais pas en sécurité, je m'accepte totalement, complètement comme je suis. Là, déjà, il a commencé à dire, ah ben c'est marrant parce que je sens des choses un peu différentes. Et puis ensuite, après avoir levé l'inversion psychologique, c'est ce que je disais tout de suite là, lever l'inversion psychologique, c'est donner la permission à notre inconscient de nous permettre de travailler sur l'origine du problème. Donc, première phase, on lève l'inversion psychologique. Deuxième phase, on retourne sur le match. Et donc, on cible précisément dans le match qu'est-ce qui a posé problème. On a trouvé plusieurs cibles, on les a traitées les unes après les autres. Fin de la séance, il se lève, il marche, il n'a plus de douleur et en fait il a pu être sélectionné 15 jours plus tard dans l'équipe nationale suisse et ils sont allés gagner un tournoi en Israël. Et c'est lui qui a marqué en plus l'essai de la victoire. Donc c'était assez gratifiant, assez sympa en fait. Donc voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose de chronique, un symptôme chronique, une douleur ou des choses qui reviennent en permanence, dites-vous qu'il y a un bug quelque part. Soit c'est les interférences énergétiques, soit c'est les inversions psychologiques. Alors, est-ce que l'hypnose peut supprimer, diminuer les inversions psy? Bon, alors, on parle d'EFT, mais comme il se trouve que c'est un peu ma famille d'origine, l'hypnose, bien sûr que oui. Mais je ne vais pas détailler comment faire. C'est une autre façon de pratiquer en hypnose. Et bien sûr qu'en hypnose, on prend en compte les inversions psy. Et au passage, je tiens à dire que c'est une technique absolument géniale qui est totalement complémentaire à l'EFT, qu'il y a vraiment... Enfin, il n'y a aucune opposition entre les deux. Le travail se complète merveilleusement bien et j'invite absolument les hypnothérapeutes à faire de l'EFT et les praticiens d'EFT à faire l'hypnose. Alors, tout ce qui est beau pour les autres n'est pas bon pour moi. Et c'est une inversion psychologique, bah, ça y ressemble. Il faudrait rentrer dans le détail, mais ça m'a l'air d'être assez évident. Alors, où peut-on trouver la phrase complète pour traiter l'inversion psychologique? Eh bien, il suffit simplement de reprendre la conférence. Donc, vous pouvez la réécouter gratuitement pendant, je crois, 24 heures. Et puis éventuellement l'acheter si vous le souhaitez, puisque cette année c'est vendu au coup par coup. Voilà, comme ça vous l'aurez. Et puis également, dans les bonus, vous allez vous apercevoir que j'ai fait des vidéos pour illustrer tous les propos,
C'est-à-dire que même si ça, à certains moments ça vous a semblé peut-être un peu compliqué, dans les vidéos vous avez vraiment le mode d'emploi. L'idée c'est de pouvoir vous transmettre facilement la manière de faire. Alors, super intéressant, merci. Ben, merci de me remercier. j'ai pas compris le nom de la méthode pour mieux traiter les inversions psychologiques. ISPEC. Ah non, c'est pas, en fait, ISPEC. On a parlé de deux choses.
C'est pas une méthode.
L'ACEP, c'est l'Association américaine pour la psychologie énergétique. Donc, c'est une association qui fait des formations aux États-Unis. Et il y a l'ISPEC, I-F-P-E-C. Qui est une association française que j'ai créée en fait, et qui est une école de formation à l'EFT. Mais c'est pas le nom de la méthode. La méthode pour traiter les inversions psychologiques, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire se centrer sur le point sensible ou sur le point karaté en répétant la phrase dont on a parlé. Qu'est-ce que c'est que le questionnement de la maïotique ? Alors la maïotique, c'est pas de la mayonnaise, c'est la maïotique en fait. Ça s'écrit M-A-I-T-I-Q-E, je crois. C'est Socrate, l'école de Socrate, hein, qui a mis cette forme de questionnement, comme je vous le disais, 400 ans avant Jésus-Christ. Maïotique, c'est un rapport avec l'accouchement, ça veut dire accoucher. C'est faire accoucher les gens de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est leur poser des questions pour les aider finalement à formuler ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Voilà, c'est ça la maïotique. Vous allez sur Google, vous tapez maïotique, vous allez en avoir des tonnes, et c'est très intéressant. Je suis en épuisement chronique depuis 20 ans, le ST m'a aidé, mais ce massage du point sensible a entraîné un très grand bâillement, serait-ce un signe ? Merci de votre éclairage. Probablement. En fait, hein. L'idée, c'est que si dans les douleurs, enfin non, comme je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est chronique, généralement, c'est qu'il y a des inversions psychologiques. Quelque part, on pourrait dire qu'il y a une bonne raison inconsciente à maintenir cet état. Donc, l'idée, c'est d'aller dépasser ça et de travailler sur ce qui est à l'origine de ça. Donc, posez-vous la question, par exemple, de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans, quelle était votre situation de vie. Imaginez, enfin retrouver les événements qui ont provoqué des émotions et travailler dessus, en fait. Pouvez-vous rappeler les inversions et le point sensible ? Alors non, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça serait trop long, mais tout est dans ce qu'on vient de dire, donc vous pouvez le réécouter derrière et vous aurez tout ça.
Oui, c'est ce que tu disais, la réécoute, c'est vraiment pendant 24 heures, on peut appuyer sur la touche pause, prendre son temps, prendre des notes.
Voilà, comme il y a plein de questions, je suis obligé de passer un peu vite dessus, hein. Désolé.
Oui, on va plutôt privilégier des nouveaux sujets.
Est-ce que l'EFT peut aider pour la jalousie, Jean-Michel ?
Oui, bien sûr que ça peut aider pour la jalousie. Alors, il y a un truc intéressant. Cette question, elle me fait penser à une chose. Il y a différents troubles. Il y a des troubles aigus. Des troubles aigus, c'est-à-dire, par exemple, une phobie ou des choses incapacitantes. Et après, il y a des traits de personnalité. C'est deux niveaux différents. Les psychiatres, dans le DSM, qui est le livre de diagnostic et de caractérisation des maladies, différencie justement les niveaux. Il y a des traits de personnalité. Par exemple, il y a des personnes qui, dès leur plus jeune enfance, ont ce trait de personnalité qui est d'être jalouse. Il faut savoir une chose, c'est difficile à traiter, c'est quasi impossible. On ne va pas transformer quelqu'un qui est jaloux depuis toujours parce que c'est constitutif de son identité en quelqu'un qu'on n'a rien à faire finalement et qui va aller partageur, on va dire. En revanche, si c'est quelqu'un qui est jaloux consécutivement à un événement qu'il a vécu, c'est-à-dire tout allait bien dans ma vie, j'étais en relation, je ne me posais pas de questions, et puis tout d'un coup j'ai été trompé ou on m'a fait tel ou tel truc, et là, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Il y a un point, si vous voulez, il y a un avant et un après. Là, c'est facile de changer, relativement facile, hein. Je fais un bémol quand même, parce que on traite l'événement, et normalement, à partir du moment où on a diminué la notion de colère, enfin les émotions de colère, de peut-être éventuellement de culpabilité ou d'autres choses, la personne peut à nouveau retrouver comme elle était avant. Maintenant, si dès l'origine je suis formaté pour être jaloux et que j'ai vécu une multitude de situations qui ont encore renforcé cet état-là, là ça va être difficile. Donc on peut utiliser l'EFT. Moi, j'adore l'EFT. Hein. Je suis très, très, très convaincu de l'intérêt de cet outil. Néanmoins, je pense que c'est pas non plus la panacée et que c'est pas le truc magique qui résout tous les problèmes. Hein. Il faut vraiment bien garder raison par rapport à ça.
Tout à fait.
Donc, autre chose comme question ?
J'avais vu une question. Il y en a tellement.
Oui, peut-il y avoir une... C'est Thierry qui pose la question. Peut-il y avoir un rapport entre la, des problèmes psychogénéalogiques, c'est-à-dire qui remontent aux, aux ancêtres, et les inversions psychologiques ? Excuse-moi Thierry, c'est pas comme ça exactement que tu l'avais posé, mais je l'ai plus sous les yeux.
Ok. Aussi, question intéressante. Parce que ça fait... Je vous invite à voir, parce qu'on peut le retrouver sur Internet. En tout cas, vous pouvez le retrouver, cette vidéo, sur le site de l'IFPEC. C'est www.ifpec.org. Il y a une vidéo, il y a un onglet qui s'appelle « Ressources ». C'est un reportage de la télé suisse sur une découverte qui a été faite par les chercheurs de l'hôpital de Genève. En fait, les personnes ont eu l'occasion d'avoir trois personnes de la même famille, la grand-mère, la mère et la fille. Elles ont fait un prélèvement sanguin sur les trois personnes et elles ont identifié un gène qui code les traumatismes. Et en fait, l'histoire de cette famille, c'est que la fille a été violée par son père, le mari de la grand-mère. Et que de ce viol est née une petite fille, qui est le produit de l'inceste. Ils ont donc fait un prélèvement sanguin à ces trois personnes, et ils ont identifié le gène et ils l'ont analysé. Et ils sont aperçus que le gène qui code le trauma était évidemment très très activé chez la fille qui a subi le viol, qu'il était presque autant activé chez sa mère qui l'a vécu par ricochet, on va dire. Mais la grande découverte et la grande surprise des chercheurs, c'est que là, l'activation la plus importante était chez la fille qui est en fait née de ce viol et qui donc l'a pas vécu. Donc, ils ont mis en évidence que les traumatismes se transmettent de génération en génération et c'est codé dans l'ADN.
Ouais.
Donc, on peut dire aussi que c'est codé, que c'est engrammé dans le système énergétique. Donc l'EFT va nous permettre de travailler là-dessus, de libérer des mémoires. Il y a un truc très très important et très fondamental dans l'EFT, hein, c'est que en plus de toutes les thérapies qu'on peut faire par la parole, c'est que nous on a une action directe sur le corps. On envoie de l'énergie, on stimule le parasympathique, on active des réactions au niveau cérébral et on transforme des choses. Ça c'est vraiment important. Ça fait la différence parce que quand on regarde ce qui se passe au niveau des publications internationales, on voit qu'il y a des études, par exemple, entre les thérapies cognitives ou comportementales, le MDR, et puis etc. Il y en a eu quelques-unes faites avec l'EFT, les thérapies cognitives ou comportementales, le MDR. On s'aperçoit que avec des techniques différentes, qui sont des techniques d'exposition, hein, c'est ce qu'on fait nous quand on fait l'EFT, on s'expose au problème puisqu'on en parle. En plus, on stimule. Eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive au même résultat que les autres. Mais si on rentre dans le détail, il y a deux ou trois études qui montrent que entre les thérapies cognitives ou comportementales et l'EFT, on va arriver au même résultat. Mais la grande différence, c'est qu'il faut 15 séances avec les TCC et il faut 3 séances, c'est-à-dire 5 fois moins, avec l'EFT. Mais les principes de fonctionnement sont les mêmes, mais ils sont accélérés. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, hein, c'est pas une révolution l'EFT, c'est on agit dans le même sens que les autres, mais on va plus vite. Et en plus, on rend les gens autonomes. Donc, c'est en ça que c'est génial.
Oui, complètement. Il y a une question de Yuri. Concernant la dissociation traumatique, l'EFT nécessitant de connaître l'information précise réactivant l'émotion et l'intensité de l'émotion bloquant l'évocation de cette information, en quoi la présence d'un thérapeute permet d'y accéder? S'agit-il d'une question de sécurité uniquement?
Ok, ce n'est pas une question simple, mais je vais quand même y répondre. Le problème dans la dissociation, c'est que si on travaille tout seul sur des traumas auxquels on n'arrive pas à accéder émotionnellement, c'est-à-dire on peut avoir le souvenir, mais quand je repense à ça, je suis complètement coupé, donc dissocié. Il ne va rien se passer. La présence, là, il y a besoin de quelqu'un d'autre. Il y a besoin d'un thérapeute, et je dirais même d'un thérapeute un peu chevronné, qui a l'habitude de la psychotraumatologie. Parce que si la personne a développé des protections qui font qu'elle se dissocie quand elle évoque tel ou tel problème, on le voit couramment, hein. Il y a plein de gens qui disent oui. « Ah ouais, mais moi je peux parler de ça ». Par exemple, quand je suis allé en Haïti pour faire deux missions humanitaires, c'est le cas typique des Haïtiens. Ils vont vous raconter qu'ils ont vu mourir leur petite sœur, qu'ils l'ont entendu, qu'ils ont essayé d'enlever les pierres, mais vous avez l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas là.
Oui.
C'est juste un moyen de protection. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas travailler. Enfin, moi, je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense qu'il ne faut pas travailler ça tout seul, ce n'est pas possible. Il faut le travailler avec des gens qui ont l'habitude, qui savent faire. Dans un premier temps, il faut développer des ressources. Il faut développer une alliance thérapeutique, on en parlait tout à l'heure dans la conférence, vraiment très très forte, et petit à petit, commencer à pouvoir réaccéder à ça. Parce qu'à l'évidence, c'est pas normal de pas sentir d'émotion quand on parle de sujets aussi pénibles et douloureux que cela. Donc il va falloir que la personne, elle baisse sa garde progressivement et qu'à un moment, voilà, elle passe par une phase où elle va être associée à ses émotions, elle va probablement pleurer, ressentir de la douleur, et puis ensuite pouvoir faire le deuil. Donc ça fait vraiment partie, à mon avis, du travail qui doit être fait avec des thérapeutes qui ont l'habitude de faire ça.
Oui, c'est ce qu'on disait dans les autres conférences, c'est-à-dire que si vous sentez que l'EFT peut ou aggraver chez vous certains symptômes, ou si vous êtes avec des traumas très lourds et coupés de vos émotions, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est vraiment important.
Bien sûr, c'est vraiment indispensable. De toute façon, si vous faites de l'EFT et que vous sentez que ça empire, vous arrêtez. Déjà, à la base. Ensuite, la deuxième question à se dire, c'est ok, si ça empire, c'est parce que j'ai mis le doigt sur un bon truc et que là, il y a une inversion psychologique. Donc, vous pouvez travailler uniquement sur l'inversion psychologique. Et si ça ne va pas mieux, eh ben vous arrêtez et là, vous consultez. Au passage, hein, je voudrais dire juste un petit message. On est en train de travailler, quand je dis « on », c'est avec Noël, entre autres, et puis Karine, que vous avez entendu, et puis plein d'autres personnes, sur le projet d'un réseau de thérapeutes qui sont formés en EFT et qui connaissent justement ces notions, parce que je veux dire, il y a plein de gens bien dans l'EFT qui sont formés dans des environnements différents, mais qui n'ont peut-être pas forcément la connaissance justement de la prise en compte de ce genre de choses. Donc, quand ça bute, dites-vous bien qu'il y a un truc qui fait qu'il y a une bonne raison quelque part. Et cette bonne raison, eh ben, il ne faut pas la contrecarrer n'importe comment. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là être accompagné. Voilà. Et le réseau s'appelle EFT Pro. Il y a un site internet qui existe qui s'appelle www.eft-pro.com. Et je lance même un appel à plein de praticiens de nous rejoindre, parce que vous verrez, c'est un super beau projet dans lequel on garantit que les gens qui participent à ce réseau sont des gens qui sont correctement formés, qui ont un bon niveau, qui sont supervisés. Ça, c'est indispensable dans tout ce qui est psycho, que vos formateurs soient, enfin vos formateurs, vos praticiens soient supervisés, qu'ils fassent de la formation continue, au moins un minimum par an. Et puis en plus, ce qui fait un peu la beauté de notre projet, c'est que on oblige les formateurs qui entrent dans notre réseau de faire du bénévolat, et on est en train d'avoir des actions avec des associations nationales pour justement pouvoir diffuser l'EFT au travers d'autres associations très connues, mais que je ne citerai pas parce qu'on n'a pas encore signé avec elles, mais ça va se faire.
Merci d'avoir parlé de ça, Jean-Michel. Et il est vrai que dans ce réseau, ça va permettre aussi à des praticiens qui se trouvent un peu isolés, un peu tout seuls, de pouvoir travailler dans un environnement où justement on va pouvoir s'entraider et se tirer tous vers le haut les uns les autres. Et c'est vrai que c'est un très beau projet, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus et ça devrait être aidant pour les clients, patients, praticiens et tout le monde.
Et je pense que le message à faire passer, c'est que la communauté EFT n'est pas sclérosée, elle est vraiment ouverte et que dans les gens qui nous supervisent, on a des gens de tout horizon, aussi bien des psychanalystes que des gens qui sont dans le domaine des TCC ou dans dans plein d'autres domaines et qui nous apportent énormément de choses. Enfin, moi, je m'enrichis en permanence et je suis sans arrêt en train de me former. Et je pense que c'est ce qu'on a à faire tous quand on prétend aider les autres, quoi. D'ailleurs, il y a une question, je vois. Est-ce que tu formes au test musculaire dans tes formations à l'IFPEC? Oui, on fait ça dans le module technicien. Nous, on a une formation un peu particulière, hein, c'est-à-dire qu'on fait un module 1 qui est les bases de l'EFT, un module 2 qui est un peu plus de technique pour travailler sur des traumas qui sont un peu plus lourds, et puis un module 3 pour travailler encore. Voilà. En fait, les modules, nous, 1, 2, 3, c'est centré sur l'outil EFT. Et puis, à côté de ça, en parallèle, on a mis en place technicien, praticien et maître praticien. Dans le technicien, on apprend une technique connexe fondamentale qui, à mon avis, qu'elle est fondamentale, le test musculaire, parce que ça permet justement de détecter et les interférences énergétiques et les inversions psychologiques. Et donc, dans ces trois jours-là, on rentre vraiment dans le détail et ça fait une différence énorme dans la pratique. Et c'est marrant parce que, par exemple, là, il y a 15 jours, j'avais en formation une personne qui est psychologue clinicienne, qui travaille à l'hôpital du Hon Sud et qui a fait une formation, pas avec moi, et d'ailleurs qui est très content de sa formation et qui travaille bien, et qui me dit bah, « c'est dingue parce que j'ai appris finalement énormément de choses et ça a complètement changé ma façon de pratiquer ». Donc voilà, l'objet du technicien c'est ça, c'est trois jours. Praticien, c'est encore un peu plus approfondi. On travaille aussi beaucoup sur les troubles anxieux. Moi, je profite beaucoup de tout ce que j'ai pu apprendre à l'AFTCC, c'est-à-dire que j'ai fait une formation en thérapie cognitivo-comportementale qui est assez scientifique. Et d'intégrer ces apports-là dans une formation à l'EFT, bah, je trouve que ça renforce, ça rassure aussi. Donc voilà, pour répondre rapidement, oui, on forme.
Rapidement, tout ça, c'est très bien expliqué sur ton site internet. Et puis, sur ton site, il y a les coordonnées pour que les gens puissent téléphoner à ton école et prendre tous les renseignements nécessaires.
Il y a d'autres questions que Michel. Je vois.
Pardon ?
Oui. Il faut que je me la ferme, non ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je trouve qu'il y a une question vraiment intéressante et j'aimerais bien que tu dises un mot là-dessus parce que je sais que tu es très... tu as de l'expérience là-dedans. Que suggérez-vous pour un homme de 75 ans, traumatisé de guerre à 21 ans? Il est hyper tendu, la mâchoire, il a la gorge serrée, et très très mal à l'aise avec la notion d'émotion. Il n'est pas capable de les identifier et il en a même très peur.
Alors, c'est le monsieur lui-même qui pose ça comme question?
Je ne crois pas.
J'ai l'impression que c'est plutôt un thérapeute.
D'accord.
Ou de sa famille, peut-être. Que suggérez-vous pour un homme de 75 ans, peut-être un thérapeute?
Ok. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'avec ce monsieur, il faut faire un diagnostic. C'est-à-dire, il faut savoir s'il est, a priori, doit être en état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique, c'est un état très particulier. Si on se réfère au manuel des psychiatres, il est identifié, il fait partie des troubles anxieux. C'est une des six composantes des troubles anxieux. Il est consécutif au fait d'avoir vécu des événements ou un événement qui a mis en jeu sa vie à lui directement ou la vie des autres ou d'autres personnes. Et il s'est senti complètement dépassé, c'est-à-dire ses capacités d'adaptation sont complètement dépassées. Normalement,
quand on vit ça, il y a une espèce de récupération qui se fait. Mais si elle ne se fait pas et que ça perdure au-delà d'un mois, eh bien, on peut rentrer dans un cadre de diagnostic d'état de stress post-traumatique. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir toute une série de symptômes. Alors, il y a plein de symptômes. Ça va des cauchemars, des pensées intrusives, de l'hypervigilance, de l'irritabilité, etc. Enfin, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a au moins 19, je crois. Et on pose déjà ce premier diagnostic. À partir du moment où on sait qu'il y a ça, on va faire l'histoire de la personne et on va pouvoir retravailler avec le EFT justement sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a plein de vidéos qui existent. Il y a un DVD qui a été produit, entre autres, dans lequel on voit Gary Craig, sur le projet des anciens combattants d'Irak. Ils ont monté aux États-Unis et Dawson Church encadre ça aujourd'hui, un projet, c'est-à-dire c'est quasiment du bénévolat. Ils vont dans des institutions et ils font passer 5 jours de thérapie à des vétérans. Il faut vraiment voir ça parce que si vous êtes dans cette problématique et si vous vous intéressez à ça, regardez. C'est vraiment génial. Ouais. En plus, vous allez sur le site EFT Universe aux États-Unis et il y a une description du protocole. Et puis, Dawson Church va venir en France au mois de novembre. Je l'invite justement pour faire un séminaire sur une de ses techniques. Vous pouvez aussi en parler à ce moment-là avec lui ou vous pouvez m'envoyer un mail directement et moi, je vous connecte avec lui pour pouvoir vous aider.
C'est sur le site.
Je viens de terminer mon...
Je crois ça aussi, hein, les informations pour la venue de Church.
Oui. Mais de toute façon, qui me contacte directement, hein, mon mail, c'est jeanmichelguret@gmail.com et il m'envoie un mail et je répondrai.
On va le mettre dans le chat. Une question
juste pour conclure là-dessus, j'ai eu l'occasion de travailler avec un légionnaire de 60 ans qui a vécu un passé assez douloureux, avec toute une histoire de vie pas possible. Les résultats qu'on a pu obtenir avec le EFT, c'était vraiment juste impressionnant, quoi. Mm-hmm. Donc, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là, et j'essaye de pouvoir travailler avec l'armée, la police, la gendarmerie, justement sur des personnes qui sont très touchées par ça, parce que ça fonctionne bien.
Ouais. Est-ce que y a-t-il des formations dans le cadre de l'OGDPC? Et je crois que tu as ça, toi.
Oui, absolument. Il n'y a qu'à aller sur le site. On est référencé à l'OGDPC.
Voilà. Pour les médecins, donc. OGDPC, tout à fait.
Alors, Jean-Michel, une autre de tes spécialités, c'est la perte de poids. On a déjà eu une conférence avec Karin Barco, une excellente conférence qui a traité de ça. Mais est-ce que tu peux dire quelques mots sur les rapports entre les problèmes de perte de poids et l'inversion psychologique, justement?
Alors, la perte de poids, c'est la conférence de Karine était absolument géniale et elle est vraiment super bonne là-dedans. Déjà, je voulais souligner. Bien sûr qu'il y a des inversions psychologiques. Quand vous faites un test musculaire sur une personne qui vient consulter et qui dit je comprends, j'ai envie de maigrir et je comprends pas, j'ai essayé tous les régimes, vous lui demandez de tendre le bras, vous appuyez dessus, dites oui, ça tient, dites non, ça lâche. J'ai envie de maigrir, vous appuyez dessus, ça lâche. Donc déjà, c'est une prise de conscience énorme. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a que des inversions psychologiques dans ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes raisons de maintenir le poids excédentaire. Et plus le poids est important, plus il y a des inversions. Et là, on va retrouver vraiment des notions dans le domaine de la protection personnelle. Là, récemment, je travaillais avec une personne qui me dit mais je comprends pas ce qui m'arrive, je pesais 52 kilos, aujourd'hui j'en pèse 150, véridique, hein, elle a donc triplé de poids. Et en fait, ce qui s'est passé à l'origine de ça, c'est une première agression consécutivement à laquelle elle n'a pas pris de poids, puis une seconde agression où là, je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur qui a dû se dire c'est trop, stop, et elle a commencé à prendre un poids vertigineux. Donc en fait, le travail, là, il est effectivement très branché sur les inversions psychologiques et sur tous les événements de vie. Hein. C'est-à-dire que, pensez bien à ça, l'inversion psychologique, c'est comme s'il y avait un programme général, un schéma général
qui bloque le changement. Donc, on travaille d'abord là-dessus. Et ensuite, c'est comme si l'inconscient, la part inconsciente de notre esprit, nous donnait la permission d'y aller. Et là, on va cibler précisément. Il y a toujours ce travail en deux temps. Hein. C'est important de le faire comme ça.
Très bien. Une autre de tes spécialités, Jean-Michel, tu travailles avec les sportifs. L'UFT est-elle utilisée pour la performance sportive?
Ben oui, c'est un super truc, ça. Je veux dire, prenez un sportif. Il s'entraîne tous les jours. Donc, puisqu'il s'entraîne tous les jours, globalement, il doit être meilleur le lendemain que la veille. Or, qu'est-ce qui explique que par moment, il est à 100% et à d'autres moments, il est à 20%? À votre avis, c'est quoi?
Il a mal marché.
C'est ses émotions, c'est ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense des autres, etc. Et je ne citerai pas l'équipe, mais dans le domaine du rugby, par exemple, quand j'ai travaillé individuellement avec des personnes, qu'est-ce que vous ressentez avant le match? Au départ, ils sont complètement bloqués. Et puis, ils finissent par dire, j'ai peur. D'accord. Et comment vous la verbalisez, cette peur? Comment vous l'exprimez? Ils ne l'expriment pas. Parce qu'en fait, s'ils ont peur, ils restent sur le banc. Donc, ils se la ferment, ils gardent tout à l'intérieur. Et quand on fait un petit sondage sur qui vomit avant le match, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de monde que prévu. Et qu'il y a plein de choses. Et que quand on creuse dans la vie de ces jeunes garçons, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, il y a tout un tas de traumas à l'école. J'étais trop mec, j'étais le mal aimé. Et puis, quand j'ai commencé à faire la musculation, ça a un peu changé. Et puis, quand j'ai commencé à faire du rugby, ça a carrément changé. Et puis, etc., etc. En fait, ils ont modifié leur histoire de vie, leur façon d'être, l'image qu'ils donnaient aux autres, en faisant du sport, de la musculation. Mais à l'intérieur, les traumas, ils sont toujours là. Et donc, il y a des blessures qui sont toujours pas cicatrisées et qui peuvent se manifester au cours d'un match. Par exemple, il y en a un, il me dit, j'ai un souci, c'est que c'est grosso modo le capitaine de l'équipe ou un des meilleurs de l'équipe. Eh bien, il me dit, mon problème, c'est que la dernière fois, j'étais en sortie de mêlée, j'étais à côté de l'embute, je prenais le ballon, j'y allais directement. J'ai vu mon collègue se faire mettre une tarte. Au lieu de prendre le ballon, je suis allé l'aider et j'ai distribué des calottes aux autres. Donc, évidemment, je ne sais pas ce qu'il a à faire. Et évidemment que ce n'est pas professionnel. Mais la question, c'est pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que lui, dans son enfance, il a vécu de l'injustice. Et que comme il était petit avant de faire la muscule, qu'il était un peu malingre, et qu'aujourd'hui, c'est une vraie bête, et qu'il est en plus, quand il marche dans la rue de son village, enfin de sa ville, on l'arrête pour lui demander des autographes, bien sûr que ça a calmé tout ça. Mais néanmoins, quand il est confronté à l'instant T au problème, ce qui se réactive, c'est son schéma d'enfance. Et donc, ce qui a fait que ça change, c'est qu'on a travaillé là-dessus. Mais c'est sûr que si on a cette vision de la personne, on ne travaille pas exactement de la même manière que si c'est un coach. Parce que souvent, ce que j'entends avec les préparateurs mentaux, c'est qu'on travaille sur les points forts, on laisse tomber les points faibles. Eh bien, avec notre démarche en EFT, nous, on s'intéresse aux points faibles. D'ailleurs, ce qui fait qu'on va être complémentaire à des coachs sportifs et que ça va bien se passer, quoi. On ne vient pas leur prendre leur place, on apporte un nouvel éclairage.
Complètement. Je confirme que ça marche très, très, très bien avec ces sportifs.
Ah oui, c'est super.
Oui, c'est super. Il y a une question que je prends à la volée. Peut-on s'inscrire à EFT Pro même si on est formé par une autre école? Oui. Justement, c'est un réseau qui tend à rassembler des professionnels.
Alors,
des
si vous êtes formé par Noël, c'est oui. Si vous êtes formé par certaines personnes que j'ai vues sur Internet, pourquoi pas? Mais il faudra avant nous passer une vidéo de comment vous travaillez.
C'est ça, il y a un dossier à remplir. Les gens peuvent aller sur le site et remplir le dossier d'admission.
Il n'y a pas d'exclusif. Je sais que je suis intervenu à Toulouse sur un salon et puis qu'il y a des personnes qui l'ont mal pris parce qu'ils ont compris que je disais que il fallait être super formé et qu'il y avait que l'ISPEC, c'est pas vrai ce que je veux dire, hein. C'est que il y a beaucoup de formations, enfin il y a quelques formations qui sont faites et qui sont de bonne qualité et que les gens qui seront sélectionnés dans EST Pro, eh bien on les juge sur pièce, c'est-à-dire que on leur demande de voir comment est-ce qu'ils travaillent et voilà, c'est ça qui prévaut. Et puis si c'est pas exactement comme nous on l'entend, bah on les exclut pas. Il y a une sorte de SAS d'entrée où on leur dit bah voilà, vous allez faire un complément de formation et puis on veut voir que vous êtes capable de faire ça et ça. C'est tout, hein. L'idée c'est vraiment de développer la pratique de l'EFT, mais en même temps de l'encadrer par des gens qui ne seront pas complètement livrés à eux-mêmes en train de faire n'importe quoi, mais vraiment supervisés, qui continuent à se former et qui sont dans un réseau, dans une dynamique de progression.
Super. Merci infiniment Jean-Michel. Malheureusement, on est 20h35.
Il va falloir qu'on ferme la salle pour préparer pour Julien qui arrive.
Une dernière question ? Une conclusion peut-être ?
Je fais des grosses bises à Julien. Franchement, écoutez son intervention, elle est vraiment géniale. Et merci à Maria, merci à Noël pour tout ce que vous faites. Tenez bien encore le coup pendant 2 jours. Après, vous pourrez vous écrouler.
On va essayer d'éviter.
Merci, merci pour ta présence, Jean-Michel. Merci pour cette super conférence. Tu as des centaines de merci dans le chat et de remerciements. De
et ben, je vous embrasse tous. Merci à vous. Franchement,
à très bientôt.
Super plaisir d'être là. Au revoir, au revoir.
Merci.
Très merci Jean-Michel, merci pour ta fidélité et ton soutien. Jean-Michel continuera, j'espère, à répondre à vos questions dans la page de réécoute.
Qui sera ouverte dans un petit moment. Il faut déménager le chat.
Il sera ouverte environ dans une demi-heure, j'espère.
Voilà.
Et voilà, vous pourrez continuer à poser vos questions là-bas et il passera à y répondre comme il peut. C'est un homme très occupé, mais j'espère qu'il...
Oui, il ira. Chaque année, il répond
volontiers.
Il faudra juste lui laisser un peu de temps.
Voilà.
Merci à tous. On aurait encore des centaines de questions, comme avec chacun des intervenants. Il n'y a pas le temps. Il faudrait faire 4 heures par conférencier.
On va arrêter les conférences, on va faire quelques questions-réponses.
Bonne soirée à tous, quelques minutes et on se retrouve dans la page de
et
Julien.
Et pensez à changer de page. Voilà, Droin. Ne restez pas ici, il faut aller chez Julien Droin. Et on se retrouve à 21h.
On se retrouve à 21h, à tout à l'heure.
Merci à tous.